L'inquiétude, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et pourquoi je vous partage cette réflexion, c'est que ce matin, mon réveil n'a pas sonné. Et puis, je me suis réveillée. Et je me suis dit, je vais regarder quelle heure c'est, plouf, 6h20. Et il y a eu une très bonne inquiétude. S'il n'y avait pas eu d'inquiétude, on dormirait encore. Alors je me suis levée, j'ai enfilé mes pantalons, j'ai essayé ma cloche, tout ça. Et puis je suis retournée dans ma chambre. Et puis c'était fini. Et je me suis dit, mais c'est intéressant parce que hier, tu leur as dit je sais plus quoi, puis après, ça revenait, il y avait plein de pensées qui venaient et tout. Là, tu as oublié de sonner à l'heure, tu pourrais avoir des pensées. Ah, franchement, tu aurais pu mettre ton réveil. J'aimerais bien savoir pourquoi il n'a pas sonné. Et il n'y avait pas cette construction de l'inquiétude après coup, qui est une inquiétude franchement inutile. Mais qui est tellement souvent présente dans nos vies. Quand on dit « je suis inquiet », c'est que je me fais des problèmes. Alors que, au fond, le problème est terminé ou qu'il n'a pas encore apparu. Et ça, c'est une emprise qui n'est plus une emprise émotionnelle, c'est une emprise conceptuelle. Et le Bouddha a parlé d'une bonne peur ou d'une bonne inquiétude, c'est celle qui fait que je ne traverse pas la route quand il y a le tracteur qui passe, que quand je m'occupe d'enfants, je leur dis de faire attention. Et puis il y a cette inquiétude où j'ai toujours peur de ce qui pourrait arriver, ou bien je me fais du souci par rapport à tout ce que j'ai fait, que j'aurais dû faire autrement. C'est tellement intéressant de voir à quel point la puissance conceptuelle peut nous gâcher l'instant. L'inquiétude, d'une certaine manière, elle vient parce que cette vie n'est pas parfaite, que lorsque nous naissons, nous entrons dans la dualité, nous quittons d'une certaine manière un monde qu'on peut appeler le monde du un, et nous venons dans cette dualité qui fait que il y a un manque, parce que par définition, je sens bien qu'il n'est pas assez, ce monde tel qu'il est. Et on pourrait dire qu'avec la méditation, cette espèce de vague souffrance, de cette séparation, ou de cette imperfection, ou de cette impermanence, on se rend compte qu'en la connaissant, on peut retrouver quelque chose. On peut être au-delà. C'est Maître Eckhart qui dit « L'homme a deux naissances. » C'est beau. « L'une au monde et l'autre hors du monde, c'est-à-dire spirituelle, en Dieu. » À l'époque, le bouddhisme, il n'était pas là en Europe. En Occident, un employé de Dieu, mais c'est la même chose. Aussi longtemps que tu souffres dans ton cœur pour quoi que ce soit, fût-ce même pour le péché, ton enfant n'est pas né. Ne tombe pas pour autant dans le doute. Que tu souffres pour toi ou pour ton ami, si l'enfant n'est pas né, il est cependant prêt de naître. Il est parfaitement né lorsque le cœur de l'homme ne souffre plus de rien. Alors, l'homme a l'être et la substance, et la nature, et la joie, et la sagesse, et tout ce que Dieu a. Notre deuxième naissance, c'est une naissance à soi-même, en fait. C'est Ajahn Chah qui dit « La source en toi est ton maître. Le maître extérieur, c'est juste un panneau indicateur. Et c'est seulement votre maître intérieur qui va marcher avec vous vers le but, car il est le but. » Et il y a ce chemin progressif où je marche, où je suis en chemin, pour arriver au but qui est en fait moi-même et ici et maintenant. Je suis déjà tout ce dont j'ai besoin et ça n'est pas ailleurs. Et combien de fois avec l'inquiétude nous nous mettons dans la prison du temps et que nous oublions d'être, l'être est simplement absent. Donc il y a cette confusion qui fait que quand je suis dans l'inquiétude, je pense que les choses seront ok si elles sont comme je les veux ou si elles sont comme l'autre les veut. Et ça n'est pas un discernement. À ce moment-là, la pensée, d'une certaine manière, elle est trop personnalisée. Je donne trop d'importance à moi et à l'acquisition que le moi pourrait faire de ce monde. Rien n'est à acquérir. Et à ce moment-là, nous voyons à quel point nous créons le monde. Et dans le processus méditatif, c'est tellement important de mettre de l'intérêt à ses pensées. Telles qu'elles sont. Non pas à ce qu'elles nous racontent, mais à ses pensées telles qu'elles sont. L'inquiétude, elle a une particularité, c'est que je crois que je suis l'expérience. Je crois que l'autre est l'expérience et que c'est quelque chose de réel, de vrai, de permanent. Et ça crée une séparation entre moi et toi, entre nous et vous, entre moi et lui. Ça fait mal. Il n'y a pas de libération à ce moment-là. Et j'aimerais reprendre ce qui se passe et comment nous pouvons nous en libérer de cet impact conceptuel. Nous l'avons vu hier un peu courtement. Essayez de le mettre en lien avec une expérience qui est la vôtre. Comment nous pouvons reconnaître cette porte d'essence qui crée un contact. Ce matin, avec mon réveil, le contact, il y a eu le mouvement pour prendre le réveil. Hop, j'ai pressé sur la couleur, plouf, contact. Ressenti, waouh, désagréable. Tant voir l'heure ou sonner l'heure, j'ai pas eu le temps de voir la saisie, j'étais déjà dans mon pantalon, en gros. C'était ok, c'était bien, puisque c'était ce qui était nécessaire. L'autre jour, j'étais dehors, je marchais tranquillement, et tout d'un coup, ça sentait la fosse sceptique. Contact. Ressenti désagréable. Souvenir, ah ouais, des fois ça arrive dans cette maison, ok. Il y a eu une saisie conceptuelle avec un doute, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue à marcher là, Mais c'était conscient, tout était conscient. Et puis j'ai eu un choix, j'ai décidé, bon, ben, je ne vais pas continuer à marcher là. Et il y a eu un acte. De pouvoir observer ça dans notre expérience, peu importe l'exemple, nous montre à quel niveau nous pouvons nous libérer ou non. Nous n'allons jamais nous libérer d'une mauvaise odeur ou bien d'un réveil qui ne fonctionne pas. On est à la merci d'une mauvaise odeur ou d'un réveil qui ne fonctionne pas. Donc, nous pouvons lâcher de nous libérer à ce niveau-là. Nous pouvons lâcher également le ressenti que ça va créer. Peut-être que quelqu'un aimerait une odeur de fosse septique, allez savoir. En tout cas, je sais que par exemple, les films d'horreur, quand je discute avec mon petit-fils qui a 13 ans, lui, il adore ça. Hein. C'est un contact qui crée quelque chose de très agréable chez lui, d'abord chez moi. C'est quand même quelque chose qui est subjectif. Donc, cet agréable ou ce désagréable va émerger, il est conditionné en lien à mon histoire ou à l'histoire de chacun, et il n'est pas vraiment transformable. Et les représentations qui l'entourent non plus. Si je n'avais jamais été dans cette maison quand cette mauvaise odeur est venue, j'aurais certainement pas fait la pensée « Ah ouais, c'est la fosse septique », je me serais dit « Attends, oh, ça c'est bizarre cette odeur-là ». Mais il n'y aurait pas eu autre chose. Ça, c'est non transformable. Par contre, les créations que je rajoute, si la pleine conscience est là et qu'elle peut voir le processus, contact, ressenti, perception, il y a un espace à ce moment-là qui fait que je me mets en retrait et que j'observe la situation. Ok ? Est-ce que je peux changer quelque chose ? Non. Il y a quelque chose qui évite ces constructions inutiles. Si la claire vision n'est pas là, ou la capacité de voir n'est pas là, ça va aller très vite et nous allons entrer dans la construction. Alors, par rapport à la fosse septique, par rapport au réveil, c'est peut-être pas trop grave, encore que, avec le réveil, si le sentiment d'échec devient fort, ça peut ficher en l'air une journée. Je peux repenser à comme j'ai loupé mon réveil du matin. Mais je vous riais, mais alors c'est ce qu'on fait sans arrêt. Mais si c'est lié à quelque chose qui, je dirais, au niveau psychologique ou karmique, correspond à une fragilité en nous, quelque chose qui est encore inconscient, le contact peut déclencher des émotions et des réactions disproportionnées, massives. Et d'apprendre à voir le contact avec des expériences relativement neutres, c'est ce qui nous permet à terme de ne pas réagir quand le contact est un contact interrelationnel qui nous jette dans des constructions et des habitudes. Quand je travaillais encore dans l'enseignement spécialisé, c'était tellement intéressant. Parce que les enfants et certains adultes ont tendance à dire c'est sa faute. Mais enfin, Arbias, pourquoi est-ce que tu lui as déchiré sa feuille ? Eh bien, c'est sa faute, il avait fait je ne sais pas quoi. qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah ben c'est vrai, il avait fait je sais pas quoi. Je suis sûre que c'est vrai. Qu'il n'était pas tout pur, ton copain d'à côté auquel tu as déchiré la feuille. Quand je suis en train de me mettre en colère contre quelqu'un, sûrement qu'il a fait quelque chose. S'il venait de m'offrir le cadeau que j'adorerais recevoir et qu'il me l'offrait avec de la bonne manière, certainement que je ne me mettrais pas en colère. Mais ce contact, celui qui presse le bouton de la réactivité, c'est un contact extrêmement précieux. Parce que nous aurons toujours quelqu'un qui presse ce bouton-là. Nous sommes à la merci de quelqu'un qui presse ce bouton-là. Et si nous apprenons à nous ouvrir, ok, il a pressé ce bouton-là, désagréable, horrible, pour moi ça c'est horrible, parce que ça me fait penser exactement à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, et puis ça me fait réagir. Ok. À ce niveau-là, je peux arrêter. Si je vois tout ça tranquillement, je peux complètement arrêter le processus de réponse du berger à la bergère. Et ça, c'est ma responsabilité. Je ne pourrai jamais changer la flèche que l'autre m'envoie au cœur. Je suis à la merci de recevoir une flèche au cœur. Mais je peux apprendre à la sentir. Apprendre à sentir avec sensibilité combien c'est douloureux. Et combien peut-être ça engendre de réactivité. Mais je peux voir cette réactivité. Je prends ma responsabilité et au lieu de réagir, je peux agir. Et c'est très important et les enfants le comprennent très bien. J'en parlais en entretien cet après-midi. Le Bouddha a dit une chose qui m'a beaucoup touchée, que certains ont déjà entendue et qu'on peut entendre et réentendre. Il a dit « C'est pire de répondre à la haine par la haine que d'être haineux en premier. » C'est pire. Pourquoi ? Parce que celui qui arrive à ne pas répondre à la haine par la haine ne sauve pas seulement lui-même, mais il sauve aussi l'autre. Si l'autre m'envoie une flèche au cœur et puis que je ne réponds pas, eh ben c'est comme s'il ne l'avait pas envoyée. Je sauve son propre karma. Je le sauve de lui-même. Et ça, c'est quelque chose que les enfants de l'enseignement spécialisé entendaient bien. Quand je leur disais « Ah ouais, il t'a fait ça, mais c'est génial. Rends-toi compte, il y aura toujours quelqu'un qui te fera ça. Eh ben toi, t'es fort ou bien t'es un faiblet ?» En général, ceux qui se font déchirer leurs feuilles, c'est les sacrés gaillards qui aiment bien être forts. Ils réfléchissent. Ah ouais, je pourrais être fort pour lui. Donc tout est question d'espace, d'intimité et d'espace. Intimité parce que si je n'ai jamais rencontré ma peur ou ma prétention ou ma colère, il y a peu de chances pour que je puisse créer de l'espace. Nous ne pouvons pas lâcher ce que nous n'avons pas rencontré. Et c'est tellement beau de pouvoir s'approcher de cette manière. C'est donc ça la saisie. La saisie, c'est ce moment où ce que je ne peux pas éviter s'est passé. Et où énergétiquement il y a ce mouvement-là, et sur la base de ce mouvement-là, je crée le futur. C'est vraiment l'expérience du temps. Il y a le passé, hein, un contact, une perception, une représentation. Il y a l'instant, et puis le futur où je peux construire ou non. Et c'est dans l'instant, si je vois la saisie, si je sens énergétiquement tout à coup ce jus qui vient, on le sent dans le corps, on le sent dans le cœur, c'est fort. Ok, il y a du jus. Wow, il n'y avait pas de jus, il y a du jus. Le rejet, c'est une forme de désir. Lorsque je rejette, c'est un désir de ne pas avoir. Et je peux sentir comment ça saisit. C'est l'attachement à moi. Je crée forcément après en termes de moi, toi. Il y a cette comparaison, cette séparation, ce sentiment d'injustice ou au contraire de mépris. Et l'inquiétude, c'est ça, je fixe par la pensée devient puissante. Et je crois que parce que je m'inquiète, j'améliore les choses, à quelque part. En tout cas, je cherche à ne plus sentir ce qui est désagréable. C'est une forme de protection pour ne pas lâcher prise. Parce que, d'une certaine manière, je ne sais pas combien c'est bon de lâcher. Et puis surtout, je n'ai pas compris la loi du karma. Je crois qu'il y a une erreur quelque part. Cette loi du karma, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est vraiment une notion qui aide. Si j'accepte ce mystère de pourquoi tout d'un coup quelque chose a du jus et pourquoi tout d'un coup quelque chose n'en a pas. Parce que nous pouvons perdre beaucoup de temps à chercher pourquoi et que c'est complètement improductif. Pourquoi est-ce que ce chemin lié à la pleine conscience s'appelle un chemin de purification? C'est parce que à chaque fois que je peux conscientiser qu'il y a du jus, ici et maintenant, vous comprenez quand je dis du jus?
Non.
Non? Qui c'est qui comprend pas? Si tu marches tranquillement dans la rue et puis que tout d'un coup quelqu'un te crie hey, Pierre, tout d'un coup il y a du jus. Tu marchais tranquillement, puis tout d'un coup on t'appelle. Ah, tu vois? Si tu es tranquillement dans ta cuisine avec Catherine, puis que tout d'un coup je sais pas ce qu'elle te dit. Que exactement ce que tu veux pas qu'elle te dise. Ou bien, juste ce que tu attendais depuis 2 mois. Eh bien, il y a du jus. Tout d'un coup, c'est « Ah !» Ok. Et il y a des karmas bénéfiques et des karmas non bénéfiques. C'est ces moments où tout d'un coup, il y a une saisie. Il y a une saisie. Et l'important, c'est de voir qu'il y a du jus, de voir qu'il y a une saisie, c'est suffisant. C'est suffisant. Pourquoi? Bien sûr, je peux vaguement expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une saisie. Quand il y a saisie, le corps est vivant, même si c'est une saisie douloureuse, en tout cas, il est là. Le cœur peut très bien sentir ce qu'il ressent, et en général, il y a une grande confusion mentale. Et si je ne peux pas accepter la confusion mentale dans l'instant, c'est d'ailleurs pour ça que je pars dans l'inquiétude et dans la tentative de clarifier par la pensée, c'est une opération vouée à l'échec. Quand il y a une émotion perturbatrice, il ne peut pas y avoir clarté mentale. Ça, c'est quelque chose à accepter. En fait, il y a clarté mentale avec la pleine conscience. C'est la clarté que juste maintenant, il y a confusion. C'est une grande clarté. Et alors, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'attends. J'attends tranquillement. L'esprit est enfermé. Il est peut-être distant. Il est peut-être affolé. Il est peut-être... Il cherche un peu qui a raison, qui a tort. Il est peut-être frustré, triste. Eh bien, j'attends. Je sais que je peux attendre. Tranquille. Donc, dans cette exploration, ce que nous nous rendons compte, c'est que l'esprit, au fond, peut être inconditionné. On peut mettre le corps en prison, mais pas l'esprit. C'est beau. Des gens comme Mandela, ou ces gens qui, peu importe les conditions, ont pu rester avec un esprit qui a même profité de ces conditions pour se libérer. Ça oriente la conscience et le chemin. C'est Jack Kornfield qui dit « Nous passons notre temps à attendre que le monde soit parfait, perdu dans nos recherches de plaisir, dans notre peur de souffrir, dans notre envie de louange. Mais si nous voulons la paix, il faut voir le réel. Nous avons à rester dans la danse du monde et à être en paix. » Le programme, ça n'est pas de ne pas avoir d'inquiétude, c'est d'être totalement en paix avec l'inquiétude. C'est quand même une énergie fondamentale de la nature humaine. Il suffit que nous ne buvions pas pendant 3 jours, qu'on nous ferme le nez et la bouche pendant même pas une minute, je ne sais pas combien, mais pas beaucoup de temps. Hein. Ça donne à réfléchir quand même sur notre vulnérabilité. Et c'est vrai que c'est incroyable, cette nature humaine qui arrive sur cette terre, qui vit, qui meurt. Nous construisons le temps. Ah, il m'est arrivé un truc sympa l'autre jour, je vais vous raconter. J'étais avec deux de mes petits-enfants qui ont 4 et 3 ans auprès d'une toute vieille tante qui était très mal. Et puis d'abord, ils ne voulaient pas venir. Mes petits-enfants, je leur ai dit, mais soyez sympas, je leur ai acheté à chacun un petit Saint-Nicolas en chocolat. Et puis, je lui ai acheté une petite fleur. Et puis, on est allé vers la vieille tante, ma tante Madeleine, qui est une paysanne, qui a un bon sens, elle est chouette. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup diminué les infirmières m'ont dit « Elle va pas bien. » Je dis « Elle va pas bien. » Elle a 96 ans. Incroyable. Et puis c'était tellement beau parce que quand elle a vu ses deux enfants, elle avait un sourire. Elle était aux anges. Et puis l'expérience était fabuleuse parce que d'abord elle a fait de l'humour. Alors qu'effectivement, elle oubliait tout le temps quand on était, elle me redemandait 5 fois quand c'était bientôt Noël. Je voyais qu'elle lâchait le sens du temps. Elle a bien le droit à son âge. À un moment donné, elle me dit « Oh, mais je suis sotte, je suis sotte, je te demande toujours. » J'ai dit « Mais tante Madeleine, t'as bien le droit de lâcher, tu sais. » Bien mieux, mais tu es gentille. Donc, elle n'allait pas bien pour les infirmières. Mais par contre, avec ma petite fille, elle a fait de l'humour. C'était trop chou. À un moment donné, elle lui a dit « Je vais te prendre ton Saint-Nicolas. Je vais te prendre ton Saint-Nicolas. » Puis elle riait. Elle. Bref, je trouvais qu'elle allait vraiment très bien. Mais l'histoire n'est pas terminée. Dans la voiture, mes petits-enfants étaient quand même assez perplexes. Puis, parce qu'ils sont venus lui apporter son petit déjeuner. Et puis, ben, on doit lui couper sa tartine. En fait, ils voyaient qu'on faisait à cette dame ce qu'on faisait à eux. Alors, ils questionnaient quand même dans l'auto. Ils n'ont pas vu qu'on lui mettait des langes. Mais... Et puis, on a parlé du fait que... Moi, je leur ai dit, mais heureusement que vous êtes venus. Vous avez vu comme elle était heureuse. Eh bien, vous comprenez, c'est parce que vous vous êtes bien reconnus. Parce qu'elle, elle a bientôt fini son temps sur cette terre, puis vous, il n'y a pas longtemps que vous êtes là. Eh bien, vous voyez, quand il n'y a pas longtemps qu'on est là, on doit encore s'occuper de nous. Et puis, quand on va bientôt repartir, eh bien, c'est nouveau pareil. Là, ça les a fait beaucoup réfléchir. Puis alors, après, la fin de l'histoire, il y a mon petit-fils qui m'appelle. Ah, il est aux toilettes. Ah, Nan, tu peux venir. Bon. Puis il me dit d'un air pénétré de sagesse. Alors, tu sais ce que je vais faire quand je serai grand et que j'aurai fait des bébés avec ma maman? Le dip, ça fonctionne à ce stade. Je vais demander de répéter parce que j'étais pas sûre. Il m'a répété exactement le texte. Eh ben, tu vois, je leur achèterai beaucoup de Lego. On sentait que déjà, je trouvais qu'il était bon. Et puis, tu vois, quand ils joueront plus avec ces Lego, eh ben, je les donnerai à d'autres enfants. Ouais, je les donnerai à d'autres enfants pour qu'ils puissent jouer. Puis il réfléchit un moment, puis il me dit, par exemple, à Timur et Lumia, c'est les cousins, mais ils ont 13 et 14 ans. Par exemple, à Timur et Lumia, puis il réfléchit encore. Il voyait bien, il était en train de construire le sens du temps. Je trouvais génial, hein. Puis il réfléchit un moment, puis il dit, ouais, s'ils sont pas encore morts. Alors, dans la même journée, j'ai eu droit à ma tante qui défaisait, qui lâchait le sens du temps, puis à mon petit-fils qui le construisait à sa façon. C'était merveilleux. Donc, la saisie, ce moment où il y a du jus et où je peux le voir, où je peux voir qu'il y a du karma juste maintenant, il y a quelque chose. Ça n'est pas une erreur, c'est quelque chose qui demande à être reconnu, conscientisé, mis en lumière. Et de cette manière, nous nous en libérons. Donc il s'agit de voir ou d'être à l'écoute. Et je le répète, de ne pas avoir de distance, de coller à l'instant qui change des fois vite, et de ne pas être envahi. Être envahi ne sert à rien. Mais rester tout le temps trop loin ne sert à rien non plus. Et prendre, avoir vraiment l'intérêt qui est ce facteur de l'éveil, ça n'est pas l'intérêt ordinaire, c'est un intérêt qui fait « Ah !» Ah, il y a ça. Ah, il y a ça. C'est pas waouh, je saisis ça. Hein? C'est vraiment ah, et ça passe, et encore. Eh bien, c'est à faire. Est-ce que vous l'avez pratiqué aujourd'hui? Qui est-ce qui a pu voir qu'il y avait du jugement, qu'il y avait des fois des opinions, qu'il y avait des fois des projections, des évaluations, des regrets ou des espoirs? Pur. Ok, tout le monde. Hein. Essentiel. Parce que ça, c'est la contemplation. Il y a la conscience. D'une certaine manière, nous créons une dualité consciente. Il y a la conscience et le monde intérieur et extérieur. Pour que nous nous rendions compte que nous faisons, que nous sommes interconnectés, qu'il n'y a pas de séparation, que c'est une illusion. Et en retraite, la pensée d'abord crée beaucoup le monde extérieur, inquiétude ou projection, ou simplement plaisir de recréer le monde extérieur. Et peu à peu, c'est le temps de la retraite qui devient prioritaire, le monde extérieur est lâché. Mais combien nous évaluons notre pratique, combien nous avons des doutes, est-ce que c'est l'effort sage, est-ce qu'il faut aller ici ou là. Et c'est beau de pouvoir explorer de cette manière. Et puis, peu à peu, nous nous rendons compte que tout est objet de conscience. Que je ne suis pas l'expérience. Et plus nous pratiquons sans ambition, plus nous pratiquons gratuitement et avec bienveillance, contentement, plus c'est organique. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Même si cela prend des centaines ou des milliers de vies d'être illuminé, eh bien quoi ? Le temps que cela prend importe peu. Nous continuons simplement à pratiquer avec un cœur à l'aise et satisfait de son rythme. Et quand nous ne sommes pas satisfaits de notre rythme, quelle est l'expérience ? Il y a une forme d'inquiétude. Je ne vais pas assez vite, je suis là pour je ne sais pas quoi, puis voilà que ça ne se passe pas comme j'aimerais. Nous pouvons voir ici et maintenant tout le processus à l'œuvre. Et la concentration, elle permet de calmer l'esprit. S'il y a beaucoup de concentration, ce sera utilisable une fois ou l'autre. L'effort juste, il est équilibré entre la concentration et la pleine conscience. Quelquefois, quand la pleine conscience devient un peu comme ça, tremblotante, pas très claire, ok, je donne un peu de concentration, je recompte peut-être un moment. J'ai pas besoin de compter, mais je suis là avec la respiration ou les paroles de métta. Mais après, ce sati qui purifie, il développe aussi la concentration. Lorsque je peux rester simplement avec la conscience de ce qui émerge dans l'instant, vous pouvez le faire maintenant. La conscience se balade et elle saisit, elle fait exactement pareil, la conscience. Elle se balade et elle saisit. Alors qu'est-ce que je saisis maintenant ? Ben juste maintenant, c'est mon tabouret, mes fesses sur le tabouret. Maintenant, c'est le son de ma voix. Maintenant, c'est le fait que j'ai les yeux fermés. Alors du coup, je les ouvre. Et le fait de suivre l'expérience de cette manière-là, maintenant c'est ma main qui fait ça, le son de ma voix, la vue. Si vous collez à l'expérience de cette manière, c'est de la pleine conscience et ça développe la concentration. Et ce qui se passe, c'est que au lieu d'avoir la pensée qui me squatte sans cesse, je commence à avoir des outils. J'ai des outils qui sont... vraiment libérateur. Au lieu d'être coincé dans l'inquiétude, dans l'angoisse, et de continuer à y être, ça vient et ça passe. L'inquiétude fait exactement la même chose que le son. Et au niveau du karma, comme ça purifie le karma, les choses viennent, mais de moins en moins souvent. Alors, il faut continuer parce que la méditation, ça n'est pas facile. L'ignorance est aussi forte que la sagesse, il faut le savoir. L'ignorance, ça n'est pas un petit truc, ah ouais, moi je vais méditer parce que je veux me libérer de l'ignorance. C'est aussi puissant que l'éveil. Dans toutes les traditions, c'est beau comment le Christ, juste avant la fin de sa vie, il a rencontré Satan dans le désert, juste avant. Et le Bouddha aussi, juste avant son illumination, il a rencontré Mara. Mara est venue, il lui envoyait toutes ses flèches. Mara, c'est le diable. Et puis le Bouddha, il était là, tranquille. Et quand les flèches approchaient de lui, elles se transformaient en fleurs. C'est-à-dire que comme il n'avait pas peur d'avoir peur, comme il n'avait pas de jugement sur le jugement, tout ça se purifiait. Et je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. Un jour, vous serez peut-être tenté de conclure que la méditation convient peut-être à certains, mais qu'elle est totalement inadaptée pour vous. Dans mon cas, la méditation a commencé par être douloureuse et ennuyeuse au-delà de toute expression. Il est presque certain que vous trouverez des arguments extrêmement convaincants pour abandonner avant même d'avoir commencé. Ne les écoutez pas. Il y a un effort à faire, un effort important et beaucoup de compassion à avoir pour cette inquiétude qui est là et qui nous met dans le doute, nous nous sentons à l'étroit, nous avons l'impression que nous ne sommes pas assez, que... Fauve, complexe, hein? C'est ok, peu à peu les voiles sont enlevés. Et ce qui devient prioritaire, c'est la pleine conscience. Est-ce que je suis là? Est-ce que je vois? Et peu importe ce que je vois. Si c'est complètement affolant, waouh, complètement affolant. Et si c'est extrêmement beau, waouh, pas mal. Attention à l'attachement. Ajahn Chah qui dit « L'effort juste, ça n'est pas l'effort de faire que quelque chose de spécial arrive. C'est l'effort d'être présent et alerte à chaque moment. L'effort de surmonter la paresse et les obstacles. L'effort de rendre chaque activité du jour pleinement consciente. » Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est au fond une plénitude où nous nous sentons non seulement assez, mais nous nous sentons aimés, habités, aimés. Alors la confiance est là. Ça n'est pas la confiance parce que l'expérience... et comme ceci ou comme cela, c'est une confiance pour rien, au-delà de l'expérience. Et c'est intéressant avec ces... quand l'inquiétude est là et que nous essayons de solutionner, de chercher comment faire... Il suffit de reconnaître, ah mais attends, c'est l'inquiétude. Et c'est bon. Mais tant que je reste au niveau mental, c'est comme si j'essayais d'enfiler un carré dans une forme ronde. Un carré qui est plus grand que le rond dans une forme ronde. Je pousse. Et jamais ça ne marchera. Parce que d'une certaine manière, la situation dit... oui, et puis le corps et l'esprit disent non, ou le contraire. Je vais finir avec une parole tirée du Prajnaparamita. Celui qui a atteint l'éveil réalise à jamais que l'infinie variété des formes que revêt ce monde toujours changeant, loin d'être une entrave ou une dangereuse distraction sur le chemin de l'illumination, est en fait un remède qui guérit. Pourquoi ? Parce que toutes ces formes étant connectées les unes aux autres, elles n'ont pas de moi séparé. Ainsi, elles expriment le mystère de l'énergie toute unifiante de l'amour. Non seulement les êtres réalisés, mais chaque chose, chaque bête et chacun d'entre nous, jusqu'au plus petit de ce monde, est un habitant de cet espace infini d'amour. Nous pouvons le sentir lorsque nous allons avec la conscience dans l'espace et dans le silence. Le son du silence, lorsque je l'écoute vraiment, et je vous enjoins de vraiment employer le son du gong pour sentir comment l'acte de création, c'est vraiment l'espace et le silence, le son qui retourne dans l'espace et le silence. Et si je laisse le corps habiter, être habité par ce rien, eh bien je me rends compte que c'est bon. C'est bon. Vous le sentez juste maintenant ?